Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour professeur Alain Fischer.
Bonjour.
Président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Avant de parler de stratégie, je voudrais votre avis sur l'étude qui vient d'être publiée par le New England Journal of Medicine sur le vaccin Moderna qui semble montrer que les vaccinés ne sont plus contagieux. C'est une donnée cruciale qui est attendue dans le monde entier. Est-ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui que les vaccins empêchent la transmission du virus ?
Je pense qu'on attend à ce que les vaccins protègent contre la transmission du virus, au moins partiellement. Mais il sera important de savoir jusqu'à quel point. Donc les données Moderna vont dans ce sens, mais je ne pense pas qu'elles permettent de conclure complètement pour l'instant.
Quand c'est encourageant.
Ouais. Je pense quand c'est lorsqu'on aura des données épidémiologiques qui permettront de voir qu'effectivement, en fonction du nombre de personnes vaccinées et en fonction du contexte, bien sûr, de circulation du virus, on observe une diminution significative du nombre de cas d'infection dans différentes régions du globe. C'est ainsi que l'information viendra progressivement. Mais c'est une nouvelle encourageante, plutôt attendue quand même. La plupart des vaccins, si on se réfère un peu à l'histoire de la vaccination, protègent à la fois contre la maladie et contre la transmission. Mais il faut quand même rester prudent, mais c'est une bonne nouvelle.
Si c'est avéré, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudrait aller au plus vite vers la vaccination de masse pour atteindre une immunité collective et éteindre enfin l'épidémie ?
Alors, il y a deux conditions. Une que vous avez évoquée et puis une seconde. Celle que vous avez évoquée, c'est si c'est avéré.
Oui.
Donc, je répète, ça prendra un peu de temps. Donc, ce n'est pas une décision qui peut être prise aujourd'hui, vu ces enjeux. Et la seconde, c'est le fait que qui dit vaccination de masse dit disponibilité de masse. Oui. De vaccins. Et comme chacun le sait, les vaccins vont arriver progressivement. Il y a encore un certain nombre de questions sur la validation des vaccins. Ce jour est strictement, on a un vaccin autorisé. Demain, on en aura sans doute très probablement un deuxième, demain au sens propre. Et les autres viendront ensuite, mais à un rythme qu'on ne connaît pas encore tout à fait. Il est important de savoir donc si ces vaccins apportent les bénéfices attendus et ensuite quelle quantité de ces vaccins seront disponibles. Donc, parler de vaccination de masse aujourd'hui n'est pas réaliste. Il faut s'adapter à un programme croissant de fourniture de vaccins et adapter l'utilisation au mieux de ces vaccins pour protéger les personnes les plus fragiles. Mais la question que vous évoquez, je l'espère très fortement en tous les cas, elle devra être débattue d'ici quelques temps, mais pas tout de suite.
Alors, parlons de stratégie et de ce début de campagne vaccinale. Est-ce que vous considérez toujours que la stratégie était la bonne, professeur Fischer, la stratégie définie par la Haute Autorité de Santé, procéder étape par étape, en commençant par les plus à risque, pour élargir progressivement la taille des groupes éligibles au vaccin? On a vu que c'était très difficile de vacciner dans les EHPAD, d'où ce début de campagne extrêmement timide et prudent.
Alors fondamentalement oui, mais en même temps, comme toujours, c'est en faisant que l'on apprend et que l'on s'adapte. De fait, la vaccination dans les EHPAD est compliquée. Elle a peut-être été rendue d'ailleurs un peu plus compliquée par une surinterprétation de préconisations concernant les questions de consentement, de timing, etc. Il y a des choses à revoir pour que les choses... Il y a une simplification possible.
Une surinterprétation, que voulez-vous dire ? C'est le délai de 5 jours, notamment ?
Il y avait le délai de 5 jours qui n'est pas absolument exact. Ce qui était exact, c'était le fait qu'il y avait nécessité de connaître à l'avance le nombre de doses approximatives nécessaires pour un EHPAD, pour l'organisation des transports, qui est quelque chose de lourd, mais c'est pas une décision nécessité d'avoir une évaluation médicale de la personne 5 jours avant. Vous voyez, c'est donc une interprétation un petit peu excessive. De même, je pense qu'on a probablement compliqué un petit peu le consentement pour les personnes qui peuvent donner leur consentement, et c'est une fraction non négligeable des personnes qui séjournent en EHPAD. Il n'y a pas besoin de signature de documents, etc. On donne son consentement oral comme on donne son consentement pour n'importe quelle vaccination.
Donc là, il y a des
mesures de simplification.
Et sur la consultation médicale pré-vaccinale aussi, ça vous semble une bonne idée ? Ça vous semble nécessaire ?
Alors, je pense que le terme est probablement conduit à là aussi à probablement être un peu excessif. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est très peu de choses. C'est est-ce que la personne n'est pas malade juste au moment où on va la vacciner, est-ce qu'elle n'a pas été, puisque c'était préconisé, atteinte du Covid dans les 3 mois passés, qu'elle n'a pas reçu le vaccin contre la grippe dans les 3 semaines passées, et enfin et surtout si elle n'a pas d'antécédents allergiques graves. Et c'est tout. C'est ça la consultation prémédicale. Oui, je l'ai faite en quelques secondes. Elle peut être faite avec l'aide de personnes qui posent ces questions, en infirmier, etc. Enfin, donc on peut à nouveau avoir un système qui se simplifie et fluidifie la vaccination en EHPAD et qui pourra d'ailleurs être utilisé, je le pense, dans les autres contextes de vaccination qui se développent maintenant, professionnels de santé, et je l'espère très bientôt, les personnes qui ne sont pas en établissement mais qui sont âgées de plus de 75 ans.
Mais sur le fond, sur le principe, vous maintenez que la stratégie de commencer par les EHPAD, puis d'élargir sur les personnes à risque, sur les plus âgées, les personnes présentant des comorbidités, pour élargir progressivement à l'ensemble de la population, c'est la bonne façon de faire.
Je pense que c'est le bon compromis entre l'état de la science, ce que l'on connaît de l'efficacité et de la sécurité de ces vaccins. Et cela dit, la situation aujourd'hui, donc on doit être le 5 janvier, n'est pas celle qui prévalait il y a un mois. Mmh. On en sait beaucoup plus. Des millions de personnes ont été vaccinées par le monde. Donc on a des garanties de sécurité encore beaucoup plus fortes. Et ça permet de s'adapter et de vacciner plus. Je pense qu'il faut rassurer vos auditeurs. Et c'est une notion importante pour la suite de la campagne de vaccination sur la très bonne tolérance de ce vaccin. Et on peut en inférer qu'il en sera probablement de même pour les vaccins à venir. Donc non, je pense qu'il ne faut pas remettre en cause cette stratégie qui s'attaque à protéger en premier lieu les personnes les plus fragiles. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit de multiples fois, mais on sait que malheureusement le Covid tue d'abord les personnes âgées. Un tiers des décès surviennent dans des EHPAD. Donc il est logique de protéger ces personnes le mieux possible. Il est logique et ça c'est l'infléchissement, il est très bien d'essayer de protéger les professionnels de santé, ceux qui ont des risques particuliers. Mmh. Ça aide aussi à faire que le système de santé tienne le coup face à malheureusement une pandémie qui persiste et quelques menaces autour du virus anglais. Et puis c'est logique ensuite, dès que possible, donc j'espère très vite, de commencer à vacciner les personnes qui ne sont pas en établissement, mais qui sont âgées de plus de 75 ans, qui ont des risques, et aussi par ailleurs des personnes qui ont des risques liés à des maladies chroniques. Il y a un certain nombre de personnes identifiées et qui devraient pouvoir bénéficier d'une vaccination accélérée.
C'est vrai que le mode d'emploi, la stratégie ont été définis en novembre-décembre. Ça paraît déjà très loin alors que c'était il y a un mois et demi. Ce qui a changé depuis Alain Fischer, depuis l'élaboration de cette stratégie, c'est l'aggravation de la crise dans toute l'Europe et l'apparition de nouveaux variants anglais, sud-africains. Est-ce que ça doit conduire à revoir nos plans, éventuellement à accélérer ou à s'inquiéter davantage de cette évolution du virus ?
Je pense qu'on peut considérer que la vaccination est quand même de loin la stratégie qui a le plus de chances qu'il nous permette de contrôler progressivement cette pandémie, même si on peut espérer des médicaments, mais on ne les a pas aujourd'hui. Donc il faut faire en sorte que cette vaccination soit mise en jeu à la fois bien et vite. Il faut combiner les deux. Et évidemment, l'évolution du virus, telle qu'on l'observe en Grande-Bretagne, avec un virus qui semble être plus contagieux, donc il risque d'induire un plus grand nombre de malades infectés, même s'ils ne sont pas chacun pris individuellement plus gravement atteints, s'il y a plus de personnes atteintes, ça veut dire qu'il y aura plus de formes graves. Donc évidemment, c'est une incitation, et ça fait partie de la réflexion et des évolutions qu'il doit y avoir autour d'une politique de vaccination. Mais c'est une forte incitation à aller au plus vite possible, en sachant que j'y reviens pas, mais on ne peut pas entreprendre une vaccination de masse parce qu'il n'y a pas de quoi vacciner aujourd'hui des dizaines de millions de personnes, c'est clair. Il faut avancer progressivement avec les vaccins disponibles, mais optimiser autant que faire se peut toutes les doses qui sont présentes ou qui vont arriver régulièrement chaque semaine pour protéger les plus vulnérables d'entre nous.
Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager d'autres commandes que celles passées par l'entremise de l'Union européenne ?
Alors pourquoi pas, c'est un sujet que je maîtrise un peu moins bien, mais on peut envisager que l'Europe, j'espère toujours à travers la communauté européenne, parce que je pense que c'est quand même une très bonne avancée de voir pour la première fois dans le domaine de la santé, la communauté européenne a réussi à s'entendre pour précommander ces vaccins, mais je suis même sûr que la communauté européenne va aller plus loin pour essayer d'obtenir plus de vaccins. C'est certainement un des champs d'action possible, c'est d'arriver à obtenir des doses supplémentaires. Faut-il encore, je le rappelle, valider les vaccins pour lesquels on n'a pas encore l'information définitive de leurs bénéfices-risques satisfaisants, et deux, que les productions suivent. On est toujours à la merci d'éventuels accidents de production. Mais il faut faire tout ce que l'on peut, mettre en œuvre tous les moyens possibles pour obtenir un maximum de doses de vaccins, c'est sûr.
Je reviens sur les variants. Vous en parliez il y a un instant, Alain Fischer. Est-ce que le variant anglais, par exemple, malgré les précautions qui sont prises et les restrictions de circulation, est-ce que ce variant n'est pas condamné, si je puis dire, ou est-ce qu'il n'y a pas une fatalité à ce qu'il se dissémine ailleurs en Europe et notamment en France ?
Écoutez, de ce que j'ai entendu de mes collègues qui sont plus spécialisés sur cette question, il est déjà détecté en France chez quelques personnes. Donc effectivement, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, mais on sait que les échanges avec la Grande-Bretagne sont loin d'être négligeables, les camions qui traversent la Manche tous les jours, entre autres, c'est assez probable que l'on va voir ce virus prendre une extension dans l'infection chez nous et en Europe. J'espère me tromper, et je ne suis pas un épidémiologiste, c'est un modélisateur, mais c'est une hypothèse en tous les cas qu'il faut considérer très sérieusement. Donc, sans doute qu'il peut avoir des conséquences en termes de mesures barrières. Et à nouveau, si on revient à notre sujet, qui est un incitateur à vacciner au plus vite.
Un mot encore sur la stratégie pour l'étape d'après, celle dont vous avez dit qu'elle n'était pas d'actualité encore, c'est-à-dire la vaccination de masse. L'une des premières choses qui a été dite au moment où la Haute Autorité de Santé a élaboré ses préconisations, c'était surtout pas de vaccinodrome, enfin de grands centres de vaccination, comme on avait fait en 2009 pour la grippe H1N1, en écartant les professionnels de santé, notamment les généralistes et les infirmiers. Il faut éviter cette erreur, s'appuyer sur le réseau de généralistes. Or, aujourd'hui, dans les discours publics, on dit si, les centres de vaccination, on va en ouvrir et on va retrouver les queues qui n'étaient pas d'ailleurs là, qui n'étaient pas là, puisque les vaccinodromes étaient restés vides en 2009. Que pensez-vous de cette question des centres de vaccination et de l'accueil des patients, des candidats au vaccin ?
La contradiction n'est qu'apparente parce qu'on ne parle pas de la même phase. Le temps qui vient va être celui de développement de centres de vaccination dans les centres hospitaliers. Ce n'est pas des vaccinodromes dans un gymnase. Ça va être essentiellement dans des hôpitaux, dans tous les départements de France, y compris Outre-mer. Il y aura un nombre croissant, je crois on devrait arriver à 600, j'ai entendu Olivier Véran dire ce chiffre, 600 centres de vaccination placés dans des centres hospitaliers, donc qui couvrent raisonnablement le territoire. Ça, c'est pour la phase actuelle ou à venir proche, où on ne dispose encore de ces vaccins qui malheureusement nécessitent des conditions de conservation dans des congélateurs à grand froid. Et donc c'est sûr qu'à cette phase-là, malheureusement, on ne voit pas bien comment les médecins traitants puissent vacciner dans son cabinet. Ensuite, on peut espérer, même si on n'a pas la certitude absolue, que nous disposerons de vaccins, dits vecteurs adénoviraux, ou bien vaccins à base de protéines, qui eux se conservent à plus 4 degrés. Donc là, ça ouvre évidemment un champ de logistique simplifié qui permettra de vacciner à proximité et chez les médecins généralistes. Et donc c'est juste une question de temps. C'est pas possible dans l'immédiat et dans les toutes prochaines semaines à cause des caractéristiques des vaccins. Ça devrait le devenir ensuite. Et donc les deux façons de vacciner s'additionneront. Je pense qu'il faut être pragmatique, il faut utiliser tous les ressorts possibles. Et les médecins généralistes, mais aussi les pharmaciens, les infirmiers sont très importants parce qu'ils vont vacciner dans le contexte que je viens d'évoquer, mais aussi, et c'est encore peut-être, enfin, c'est aussi important parce que ce sont les interlocuteurs naturels de nos concitoyens pour leur expliquer le bien fondé de la vaccination. Et ça va être, on n'en parle pas beaucoup ces jours-ci, mais c'est absolument crucial. On sait qu'il y a quand même un doute non négligeable, une hésitation qu'on peut comprendre en partie, mais qui devrait pouvoir se lever avec l'accumulation des informations qui vont dans le bon sens. Mais ce doute existe. il faut le lever, ça passe par l'information de qualité, une information transparente, et les médecins généralistes vont jouer un rôle majeur aussi sur ce plan.
Merci beaucoup Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Le 13h de Simon Rubin, dans un instant, bonne journée.